Okapi.
Bonsoir, trois thèmes pour cette colline de la presse, à savoir fin de la visite en République démocratique du Congo du secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé des opérations de maintien de la paix, ainsi que celle de la vice-première ministre et ministre belge en charge de l'emploi et de l'égalité des chances. Ensuite, reprise depuis mardi dernier de la localité de Makanza par le FRDC des insurgés MLA. Et enfin, révision du fichier électoral, annonce du calendrier de la poursuite des opérations dans certaines provinces. Selon la CEI, ces opérations concernent tous les électeurs, même ceux qui détiennent encore leurs anciennes cartes d'électeurs. Trois journalistes participent à ce débat. Il s'agit de Marcel Ngoy, il est éditeur du quotidien La Prospérité, c'est un journal qui paraît à Kinshasa. Albert Omba, il est journaliste à la radio Tropicana FM, c'est une radio qui émet depuis Kinshasa. Et Christian Maloula, il est directeur coordonnateur des Canal Congo Télévision et Radio Liberté à Bumba, à l'Équateur. Fin de la visite du secrétaire général adjoint des Nations Unies et celle de la vice-première ministre belge et reprise de Makanza par les FRDC ainsi que la poursuite des opérations de révision du fichier électoral. Quels sont les thèmes retenus pour le débat de ce soir? Nous allons voir comment la presse chinoise a traité ces différents sujets dans cette revue de presse qui nous présente Samuel Kachak.
Bonsoir. Premier sujet retenu pour cette revue de la presse, l'annonce par la CEI d'un nouveau calendrier pour la révision du fichier électoral. Pour la prospérité, on répond tout à zéro. Une analyse partagée par l'observateur qui pense que l'objectif de cette opération est de répondre à zéro l'enrôlement des électeurs. Autre sujet abordé cette semaine, c'est la visite de travail à Kinshasa d'Alain Leroy, secrétaire général adjoint des Nations Unies, chargé des opérations de maintien de la paix. L'avenir indique que la reconfiguration de la MONUC a fait l'objet de discussions avec les autorités congolaises. Selon le chef des opérations de maintien de la paix de l'ONU, un retrait progressif de la force militaire de la MONUC est envisagé dans les prochains jours, suivant le mandat à définir à partir de juin 2010. Le potentiel pour sa part note que le retrait progressif de la MONUC doit s'achever, comme la primature l'a souhaité, au 30 juin 2011, peu avant les élections. Le Phare fait savoir pour sa part que, juste avant son départ de la RDC, Alain Leroy a déclaré que, compte tenu de la persistance des troubles, la MONUC ne va pas retirer ses troupes de l'Est avant que l'autorité de l'État ne soit rétablie. Terminons cette revue de la presse avec l'information faisant état de la reprise de la localité de Makanza à l'Équateur par les FRDC des mains des insurgés Enyele. La tempête des tropiques estime que les rebelles Enyele sont mis en déroute par les FRDC à Makanza. Mais cela ne suffit pas car une enquête approfondie doit être menée à l'Équateur en vue de connaître les soubassements de ce qui apparaît aujourd'hui comme une effervescence populaire commanditée à des fins politiques. Ce qui fait croire au journal Le Phare que les FRDC et les Enyele jouent au ping-pong.
Merci Samuel Kachak pour cette revue de presse. Un petit commentaire, Marcel Ngoy, vous êtes éditeur du quotidien La Prospérité, c'est un journal qui paraît ici à Kinshasa. Et comment vous appréciez le travail de la presse chinoise de cette semaine?
C'est un travail intense, confrère. C'est que la presse, c'est elle qui joue le rôle de fouineur, le rôle de chercheur pour pouvoir ramener sur la place publique les choses qui ne sont pas assez connues. C'est un travail formidable parce que l'accès aux sources d'information n'est pas facile. Et les difficultés de communication, les difficultés de déplacement avec des embouteillages monstres ces derniers jours. Donc, c'est un travail qui s'est fait au milieu de beaucoup de difficultés, mais c'est un travail parce que pour nous, c'est un apostolat.
C'est un apostolat. Albert Omba, vous êtes journaliste à la radio Tropicana FM, et c'est une radio qui est née ici depuis Kinshasa. Et selon vous, tout a été dit, rien n'a été oublié par la presse chinoise.
Oui, tout a été dit, mais il y a quelques faits qui ont fait le freiner à connaître. Il y a par exemple le procès Yengo au niveau du dossier Marc Ernest.
Yengo Matampou, l'ADG de la
SNEL. L'ADG de la SNEL. Il y avait aussi un dossier sur l'intervention que le gouvernement congolais devait payer au profit des entreprises bidons, qu'on ne sait pas, au niveau des mines pour un montant de 100 millions de dollars. et ce montant devait retirer au Pentecôte qui était destiné à la Jekamine. Bon, en dehors de ça, on avait quelques petits problèmes aussi au Maniema, où il y a eu une crise au niveau de l'institution du Maniema. Bon, il y a autant de petits faits qui n'ont pas été réussis.
Oui, Christophe Maloula, vous êtes directeur coordonnateur des canaux Congo Télévision et Radio Liberté à Bumba, à l'Équateur. Et quelle est l'actualité qui a dominé dans la province de l'Équateur cette semaine?
Vous l'avez dit, Jimaté, il s'agit bien d'abord de la perte de la localité de Makanja la semaine dernière. Et au début de la semaine, nous avons entendu parler de la reprise de cette localité par les FRDC. C'est vraiment l'actualité qui a dominé la province.
Merci, nous passons à notre premier thème de ce soir. Fin de la visite en République démocratique du Congo du secrétaire général adjoint des Nations Unies, chargé des opérations de maintien de la paix, ainsi que celle de la vice-premier ministre et ministre belge en charge de l'emploi et de l'égalité des chances. Fin depuis mercredi dernier de la mission d'Alain Leroy en République démocratique du Congo. Pendant son séjour chinois, le secrétaire général adjoint des Nations Unies, chargé des opérations de maintien de la paix, s'est entretenu avec les plus hautes autorités congolaises autour de la prochaine reconfiguration de la mission des Nations Unies en RDC. Les points avec Jean-Désiré Kanyama.
Cette mission de deux jours s'est clôturée par un point de presse tenu au quartier général de la MONUC. Alain Leroy a fait savoir qu'à partir du 1er juin 2010, la MONUC changera de mandat. La question a été et sera au centre d'entretien avec les autorités congolaises. Alain Leroy.
Le mandat actuel de la MONUC se termine le 30 mai 2010. Et la résolution qui avait autorisé cette reconduction jusqu'au 30 mai prévoyait expressément la reconfiguration et le désengagement progressif, bien sûr, de la MONUC. Et c'est de ça dont je suis venu parler avec les autorités. Et j'ai été reçu par M. le Président de la République et par M. le Premier ministre.
Au sujet des opérations militaires en cours à l'est du pays, le secrétaire général adjoint a rappelé le principe de conditionnalité du soutien de la MONUC au FRDC. Il a indiqué que la MONUC n'appuyait pas des unités sous commandement des officiers de violation des droits de l'homme, notamment le commandant Zimulinda.
Nous l'avons dit très clairement aux autorités congolaises, nous faisons un examen des différents commandants et je peux vous assurer que la MONUC ne soutient pas aucune des unités dans lesquelles le commandant Zimulinda est appliqué. Nous avons vu à ce sujet la déclaration du porte-parole de l'unité de la communication à son sujet et la MONUC ne soutient pas les unités dans lesquelles intervient M. Zimulinda et de la même façon M. Bosco n'est pas dans la chaîne de commandement des opérations que nous soutenons.
Albert Omba, vous étiez présent lorsque M. Alain Leroy a tenu le point de presse mercredi dernier ici au quartier général de la MONUC. Votre réaction par rapport à sa visite?
Oui, une réaction normale parce que M. Alain Leroy a bien précisé qu'il est venu pour discuter du calendrier du retrait des troupes de la MONUC. Mais jusque-là, ils n'ont pas pu trouver une date fixe parce que les Nations Unies ont proposé une date et un calendrier de retrait. Le gouvernement a le sien, parce que pour le gouvernement, d'après certaines indiscrétions, ce retrait devait commencer au mois de juin 2010 pour se clôturer au mois de juin 2011. Et maintenant, M. Alain a laissé aux soins une commission qui va se charger, qui sera nommée par le chef de l'État, qui va se charger de discuter sur les modalités pratiques de ce calendrier. Et j'espère que pendant ces discussions, la partie congolaise doit veiller à ce que ce retrait de la MONUC soit d'une façon progressive, mais au moins qu'on tienne compte des réalités, parce qu'il y a un programme électif qui est des élections qui est programmé jusqu'au-delà de 2011. Et si, dans les chefs du gouvernement congolais, la MONUC devait se retirer à fin juin 2011, ce qui fait dire que la MONUC ne va pas participer au processus électoral, vous comprenez les conséquences que cela pourrait engendrer après. Parce qu'il y aura la MONUC qui représente la communauté internationale, la MONUC, grâce à son appui logistique et sa couverture aussi, permet d'atteindre tous les points où on peut acheminer le matériel pour l'organisation des élections. Et ça, la présence de la MONUC, ça va poser énormément de problèmes.
Oui, et Marcel Ngoyi, vous, au journal La Prospérité, qui est votre journal, et comment l'information sur la reconfiguration et les désengagements progressifs de la MONUC a été analysée au journal La Prospérité?
D'abord, il faut souligner que lorsque Alain Leroy est en train de discuter avec le Premier ministre Adolphe Mouzito, ici, au quartier général de la MONUC, ça brûlait. Parce que vous avez un problème ici avec le personnel local qui est en train de revendiquer un certain nombre de conditions, notamment les journaliers qui réclament d'entrer en contrat, de signer un contrat avec la MONUC, et en même temps, les gens qui sont engagés qui réclament l'amélioration des conditions de vie. C'est une parenthèse que je referme assez vite pour rejoindre le thème que vous soulevez. Je pense que la problématique du retrait, est une problématique qui est inscrite dans une résolution des Nations Unies portant prorogation du mandat de la MONUC jusqu'au pratiquement à la fin du mois de mai. Alors, lorsque une autorité de la trempe dans les rois vient ici, c'est pour aborder de façon schématique comment on concrétisait ces processus de retrait. Mais je dis tout simplement qu'au plan politique, ces retraits sont interprétés comme soulève assez d'inquiétudes. Des inquiétudes par rapport à ce que Albert Omba venait de fleurer ici. Nous avons une année pratiquement électorale qui s'annonce, c'est l'année 2011, étant donné que cette année, il n'y a pas de moyens pour organiser les élections locales, municipales et urbaines. C'est l'année prochaine qui va prendre en compte pratiquement le processus électoral en vue d'assurer ce qu'on appelle l'alternance politique aux affaires à la fin du mandat ou du quinquennat actuel. Donc les études sont au sujet de la dimension, de la taille du pays qui veut que l'autorité de l'État soit restaurée partout. Et au stade actuel, il existe de ponts entiers, des parties entières de la République où l'autorité de l'État continue un tout petit peu à balbutier. Et c'est dans ce sens-là que les inquiétudes se justifient pour dire que là où le FARDC et la police nationale n'arrivent pas encore à assurer totalement l'ordre et tout ça, on a besoin du concours bienveillant de la MONUC pour pouvoir résoudre le problème. Ça, c'est de un. De deux, pour arriver à maîtriser le processus électoral en cours. Vous savez que jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas encore d'engagement précis des États qui nous ont toujours aidés. Et jusqu'ici, l'accord formel, l'accord de principe d'aider la commission, la future commission nationale électorale indépendante, l'accord est venu de la MONUC. Et la loi, Alain Leroy l'a dit, pour dire que les soutiens matériels, les transports du matériel électoral, des kits électoraux, tout ça, c'est la MONUC qui pourrait l'assurer.
L'appui
logistique à la réalisation de cet objectif, d'abord au niveau de la révision du fichier électoral et en même temps à la réalisation des opérations électorales, la MONUC est prête à nous aider avec les avions, avec les moyens, les matériels de transport. Et faire passer la MONUC, il faut tenir compte de cette dimension importante qu'est la réalisation du processus électoral. Parce que si un processus électoral est mal organisé et dans des conditions non transparentes, il peut constituer une bombe à retardement pour l'ensemble du pays.
Christian Manoula, partagez-vous les points de vue soulevés par Albert Omba et Marcel Ngoï selon lesquels l'annonce du désengagement et de la reconfiguration de la MONUC soulève des inquiétudes?
Bien sûr que oui, ça doit soulever vraiment des inquiétudes. Et moi je suis en train de voir le problème à double dimension, parce que c'est le gouvernement congolais qui avait besoin de la MONUC. Et aujourd'hui, s'il estime qu'il est devenu assez capable pour maîtriser, pour remettre la paix sur toutes les tenues de la République, je crois qu'il n'y a pas de problème. Si les Congolais vont se sentir vraiment en paix par la MONUC, je crois qu'il n'y a pas de problème. Et si le gouvernement congolais trouve qu'il y a encore de problèmes à régler, qui nécessiterait la présence de la MONUC, je me demande pourquoi le gouvernement doit se hâter et parler des deux portes de la MONUC. Et la résolution des Nations Unies qui parle de fin du mandat de la MONUC fin mai 2010 est clair et net en la matière. Mais il se pose là un autre problème, c'est celui soulevé par mes confrères. L'année 2011 est une année décisive. Vous avez tous remarqué que les élections municipales, locales, urbaines n'ont pas eu lieu. Je ne sais pas, faute de moyens ou faute de volonté, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, en 2011, nous aurons les élections à tous les niveaux. Donc, les locales, les législatives, résidentielles. Faudra-t-il que ces élections se déroulent sous la présence de la MONUC? Quel est le mal? Y a-t-il si la MONUC était dedans? Et pourquoi le gouvernement se précipite-t-il? Y a-t-il quelque chose? Y a-t-il vraiment quelque chose qui incite le gouvernement à vraiment à se hâter pour le départ de la MONUC? C'est là où nous avons beaucoup d'interrogations. C'est comme ici, avec quelque chose qui ne rimait pas bien, autant parce qu'on a attendu le porte-parole du gouvernement, M. Lambert Mende, de l'a déclaré à travers la télévision, il a parlé qu'il était impossible de prolonger le mandat de la MONUC. Bon, il est là qui fait ça, il ne voit pas ce qui se passe à l'est du pays, il ne voit pas ce qui se passe à l'équateur, un peu partout dans le pays. Donc, je crois que le gouvernement a ses raisons, c'est nous ignorons peut-être.
Toujours en diplomatie, nous allons parler de Mme Joëlle Mecquet, la vice-première ministre et ministre belge de l'Emploi et de l'Égalité des Chances, chargée de la politique de migration et d'asile. Elle a affirmé qu'elle est venue avec un objectif très positif et constructif à la fois, pour donner un signal de soutien à toute l'ambition et les objectifs du vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, puisque c'est un des 5 chantiers pour le développement du Congo. Et aussi parce que dans les semaines et les mois qui viennent, le vice-premier ministre Mobutu Zanga a l'ambition de venir avec différentes propositions de réformes qui sont importantes pour le pays, notamment la politique de l'emploi en organisation administrative et de l'ONEM. Albert Omba, comment avez-vous apprécié la visite de la vice-première ministre belge, Mme Joëlle Mecquet?
Oui, la visite de Mme Joëlle Mecquet, c'est quand même ça a essayé de dégeler un peu la situation avec la frustration qui existait avec le propos de M. De Gates, où il y avait un climat morose entre le gouvernement belge et le gouvernement congolais. Et Mme est venue quand même rassurer le gouvernement congolais de l'appui de la Belgique, surtout dans les domaines précis qui sont l'emploi et l'immigration. Et nous avons constaté aussi que en dehors de l'emploi, Madame a eu beaucoup d'entretiens aussi avec les entrepreneurs congolais où elle a proposé de créer une table ronde prochainement. Et aussi, vu tout ce qu'elle a pu constater comme expertise au niveau des services d'immigration, elle a proposé aussi de créer une maison de Schengen ici pour permettre à ce que les Congolais puissent avoir facilement les visas pour se déplacer, parce que pour éviter aussi beaucoup de tracasseries qu'on trouve au niveau des ambassades. Je crois qu'à ce niveau-là, la visite était un peu fructueuse. Seulement, Madame n'a pas fait allusion à la prochaine visite de Sa Majesté le Roi Albert II, que les Congolais attendent au niveau le 30 juin prochain pour les cinquantenaires de notre pays. Elle n'a donné aucune précision là-dessus.
Marcel Ngoï, dans un espace de quelques mois, la RDC a bénéficié de la visite de 2 grandes personnalités belges. Et comment analysez-vous cela?
J'apprécie la franchise de cette diplomatie qui se développe désormais entre le Congo et l'ancienne puissance coloniale. Mais je trouve que ce qui manque au Congo, ce ne sont pas des visites. Le Congo a toujours bénéficié de la visite et de plusieurs visites, autant de la Belgique que des autres pays amis. Mais le vrai problème qui manque au Congo, c'est qu'on ne rentabilise pas toutes ces visites. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas de projet, on n'arrive pas à présenter des projets bancables, des projets qui assortis des études de faisabilité pour que toutes ces visites permettent à RDC de pouvoir bénéficier de la sollicitude de toute la communauté internationale. Par exemple, nous avons aujourd'hui un sol, un sous-sol riche, immensément riche. Et nous pouvons développer à travers différentes visites qui nous sont favorables, que nous puissions proposer à tous ces visiteurs, à tous nos hôtes de marque, des projets concrets pour que ces visites deviennent futures. Sinon, c'est du pur tourisme.
Et vous pensez que la RDC ne fait pas ce travail, ne cherche pas de créer à l'endroit de ses partenaires?
Chez nous, mon ami, chez nous, le tourisme ne paye même pas. Ailleurs, quand vous allez ailleurs, en Afrique du Sud par exemple, vous êtes à Cape Town, vous retrouvez qu'il y a des sites touristiques qui sont visités et toutes ces visites, il faut payer. Chez nous, nous avons tout. Nous avons le fleuve qu'il faut visiter. On le visite gratuitement. Tous ces visiteurs, ça les voit et repartent gratuitement. Vous avez aujourd'hui, quand vous allez à l'Est, vous avez des sites comme des chaînes, des montagnes, qu'on visite gratuitement. La Corée danse quand vous survolez la province orientale, quand vous êtes même dans la périphérie de Kinshasa. On visite tout ça gratuitement. Moi, je dis ceci. Tous ces diplomates qui viennent vers nous, cette ruée des diplomates doit être rentabilisée. C'est en proposant des projets concrets de développement de ces pays, et non en favorisant seulement des opérations de charme consistant à dire qu'on a reçu tel, on a reçu un tel autre. Donc l'important, ce ne sont pas des visites. D'ailleurs, à un moment donné, j'avais apprécié le propos du président de la République lorsqu'il disait qu'au début de son mandat, il aimait bien aller en dehors du pays parce que ça lui permettait de faire un peu le tour du monde. Mais à un moment, il a compris que la sortie des chefs de l'État à l'extérieur du pays comportait plus de risques. En ce sens,
qu'il devait dépenser un peu plus d'argent que quand il est au pays. Et il préférait, depuis, faire le tour à l'intérieur du pays pour se réaliser, palper du doigt les réalités du pays, pour que, d'une manière ou d'une autre, qu'il en soit sensible. C'est la même chose dans l'approche que nous avons dans le cadre de la nouvelle diplomatie de proximité et de développement. Il faut que ces échanges aboutissent à quelque chose. Nous avons énormément de problèmes et les gens qui viennent ne sont pas des personnes qui viennent faire de simples tours, mais si nous leur proposons rien, ils ne nous donneraient rien.
Christian Manoula, vous pensez, comme l'a dit Marcel Ngoï, que la RDC ne rentabilise pas toutes ces visites?
Oui, je lui donne complètement raison. Je pense que ce dont nous avons besoin aujourd'hui, ce ne sont pas toujours les rétablissements de relations. À quel niveau? Parce que la République démocratique du Congo ne signifie pas le gouvernement de Kinshasa à Kinshasa, tout simplement, il ne signifie pas la ville de Kinshasa. On a vu ces relations se refroidir, se réchauffer, mais au profit de qui, justement? Parce que madame est arrivée, madame Joël Bizet est arrivée à Kinshasa, il est ministre de prévoyance et sociale égalité des chances en Belgique, où on connaît pratiquement le nombre de chômeurs dans son pays. Est-ce qu'ici chez nous, on peut connaître le nombre de chômeurs? Le taux de chômage est élevé à combien de pourcents chez nous? Et quelle chance cette dame peut apporter au peuple congolais aujourd'hui à son arrivée? Les Congolais de Mbandaka, de Katanga, du Bas-Congo, du Kassai et de partout où il y a des diplômes qui pilulent dans du mal, qui n'ont pas un emploi, des diplômes des universités valables. Moi, je pense que parler de réchauffement, des relations, de ceci, cela, sans un impact visible, ça n'a pas de sens. Nous voulons que tous les Congolais puissent avoir la chance de bénéficier de ce Congo immensément riche. Et le Congo n'est pas seulement l'exclusivité d'une seule personne ou d'une catégorie de personnes pour sa richesse. Nous pensons que si, aujourd'hui, la Belgique, comme étant notre métropole, de vraiment mettre la main dans la pâte pour essayer de sauver ce Congo en péril, elle aurait mieux fait de passer à tous les Congolais à travers le pays et ne s'arrêter pas seulement avec le politique de notre pays, avec les hommes politiques de notre pays. Hein. Et puis je vois une chose, quand il y a un refroidissement des relations entre la Belgique et le Congo, notre pays, et souvent la Belgique qui court vers nous, et nous ne faisons pas autant. Et je me pose la question, pourquoi ça? Et il semble même qu'il y a un grand nombre de Belges qui ne vivent que de revenus de notre pays. Et combien de Congolais vivent de revenus de la Belgique aujourd'hui? C'est la question que nous devons nous poser.
Merci, nous passons à notre deuxième thème ce soir, reprise depuis mardi dernier de la localité des Makanza par le FRDC des mains des insurgés NLA. L'information a été donnée mardi dernier par le gouvernement provincial des Locateurs. L'exécutif provincial signale des pertes en vie humaine du côté des insurgés NLA. Il promet de tout faire pour mettre hors d'état de nuire ces insurgés. Il lance aussi un appel à la population pour que se désolidarise de ces insurgés. La ministre provinciale de la communication et porte-parole du gouvernement de l'Équateur, Rebecca Ebalé, est au micro d'Henri Lobondo Bokelo.
Les gouvernements provinciaux de l'Équateur confirment l'information. Les territoires de Makanza est repris par l'armée nationale depuis ce matin aux environs de 6 heures. Il y a eu certes des pertes en vie humaine de la part des insurgés et les bilans nous sera fournis par les forces en place. Les FRDC, donc, elles sont en train de faire l'inventaire de tout ce qu'elles ont récupéré comme armement et autres matériels qui détenaient ces insurgés ennemis. Et donc, à la population locale, nous réitérons cet appel de se désolidariser avec ces éléments ennemis, de ne pas pactiser avec l'ennemi, car nous n'allons pas reculer, hein, au nom de la patrie et au nom de l'unité nationale. Nous allons donc combattre ces éléments ennemis jusqu'à les remettre hors d'état de nuire.
Selon le porte-parole de la 3e région militaire, le lieutenant Kasongo Bilolo, les Enyélés qui occupaient cette localité à 200 km en amont des Mandaka sur le fleuve Congo depuis samedi dernier sont ceux que les FRDC avaient mis en débandade à Bomongo. Marcel Ngoï, les Enyélés font une fois de plus parler d'eux alors que le gouvernement nous avait dit qu'il avait mis fin à ces phénomènes. Comment vous réagissez?
Oui, le phénomène Enyélé, c'est un phénomène nouveau. Mais c'est une prolongation de plusieurs pratiques auxquelles on a assisté depuis quelques années dans notre pays. Vous avez connu à l'époque l'expérience du RCD. Et plus tard, vous avez connu l'expérience du CNDP. Le CNDP n'a été qu'un succédané du RCD. c'est-à-dire des éléments qui ont développé la même, le même esprit, c'est des anciens du RCD qui se sont mis en, dans un autre mouvement. Aujourd'hui, on ne sait pas exactement les succès d'année de qui, mais nous disons tout simplement que c'est une pratique. Cette pratique pourrait continuer tant qu'on on pratique la politique de la prime à la guerre. Dans notre pays, les gens ont compris qu'au lieu d'aller aux élections, il faut aller prendre les armes, embêter le régime et plus tard conclure des accords pour accéder au pouvoir. Alors, c'est comment faire pour décourager cette pratique ou ces pratiques? C'est justement à ce niveau où le gouvernement a la responsabilité d'organiser les élections, les bonnes élections, de façon que les gens ne puissent pas s'exprimer en dehors des créneaux tracés. Et c'est là que nous disons que le concours bienveillant de la MONUC, le concours bienveillant de la communauté internationale, y compris la Belgique, dont Mme Joëlle Milke était ici, c'est un concours qui est important pour que l'alternance au pays ne puisse pas donner aux gens l'impression que parler avec le pouvoir directement ne signifie rien, il faut plutôt aller s'exprimer en dehors du créneau en prenant les armes. Donc l'unique manière aujourd'hui de tuer ce type de phénomène, c'est de rendre crédible la gestion du pays, de rendre transparent la gestion des ressources du pays, de rendre potable, si vous voulez, les décisions. Parce que si les décisions que vous prenez, les orientations que vous prenez sont saluées par la majorité des Congolais, personne, et alors personne, ne pourrait penser à recourir aux voies extrêmes. Les Agnélés sont ces derniers groupes d'extrémistes qui pensent qu'il faut se faire entendre autrement. Donc il faut pas attendre qu'il y ait plusieurs Agnélés pour se soulever, pour accepter de dialoguer, de jeter un pont avec les forces vives, de jeter un pont de dialogue avec les partis politiques, de jeter un pont de dialogue, mais même d'organiser la vie politique nationale. Ça ne bouge pas. Pourquoi? Parce qu'on croit qu'on est arrivé. C'est l'arrivisme qui tue différents régimes qui se succèdent dans ces pays. Il faut que, quelque part, que les gens considèrent que les autres, même s'ils ne sont pas au pouvoir, les autres qui sont en dehors du système, ils sont importants pour autant que la démocratie veut que tout le monde participe.
Albert Roma, Martin Ngoï évoque la politique, ce qu'il appelle la politique de la prime à la guerre, et qui pourrait expliquer la réapparition de ces insurgés Agnélés. Vous pensez que c'est le seul facteur?
Non, il y a un autre facteur important en dehors de ce que Marcel vient d'évoquer, c'est le facteur sécurité. Oui, il y a une très grande négligence au niveau des dispositions sécuritaires à prendre. Vous voyez, les Agnélés ont commencé à Dongo. C'était une petite histoire entre un petit conflit foncier où les gens devaient se disputer un étang, tout ça de poissons. Mais le conflit est allé de Dongo à Bomongo. Aujourd'hui, nous sommes à Makanza. Donc, ça s'étend à travers toute la province de l'Équateur. Ce qui veut dire qu'il faut, en dehors de ce que Marcel vient de dire, d'une bonne politique, il faut aussi renforcer la sécurité, c'est-à-dire avoir une armée dissuasive. C'est-à-dire quoi? Le gouvernement avait une politique de former 18 brigades. Aujourd'hui, on est arrivé à combien de brigades? Il n'y en a pas. Sauf si aujourd'hui on a une bonne équipe de militaires qui sont sur le terrain. C'est le bataillon qui a été formé, le commando qui a été formé à Kindu. C'est le même bataillon qu'on déplace à gauche et à droite pour combattre. Mais si on a 10 bataillons pareils, des commandos, on a 10 bataillons de fantassins, on a 10 bataillons des éléments de troupes blindées, on a 10 bataillons de mécanos aéroportés, on a 10 bataillons de troupes aéroportées. Vous croyez qu'il y a un individu qui peut se soulever dans ces pays pour dire quoi que ce soit? Non! Et il faut aussi relever le niveau de renseignement. C'est-à-dire, c'est une politique. Les Agnélés, ce sont des guérillos. Les guérillos, ils agissent comment? Ils vivent avec la population. Il faut un niveau de renseignement très développé. Ces renseignements, on doit savoir éduquer la population de façon qu'ils sentent qu'il y a tel danger et dénoncer. Et il ne faut pas aller dénoncer pour dénoncer. Il ne faut pas qu'on en profite pour dire non, c'est tel politicien qui tire les ficelles à gauche, à droite, non. Mais aller au fond du problème, essayer d'arranger la sécurité, les renseignements au niveau de chaque province, de chaque entité, de façon que, au moindre petit problème, on a l'information fiable. Donc, c'est à ce prix-là qu'on pouvait sécuriser la République, en dehors de tout ce que Bancel a dit.
Oui, Christian Aloula, vous êtes dans cette province de l'Équateur. Albert Rumba et Martin Ngoï ont évoqué certains facteurs, notamment la politique de la prime à la guerre, les manques d'une armée dissuasive, les manques des renseignements. Et à part ces facteurs, quels sont les autres facteurs que vous pouvez évoquer pour expliquer ce phénomène d'Ignélé.
Oui, il y a, en tout cas, il y a beaucoup à dire de cette histoire d'Ignélé. C'est parti, comme les collègues venaient de le dire, d'un conflit tout à fait tribal, d'un conflit de terre, où les Ignélés étaient en train de se battre avec les Lobana. Il y a eu déjà mort d'homme au départ, et les gouvernements étaient un silence absolu. Si les gouvernements au départ avaient pris toutes les mesures sécuritaires pour remettre de l'ordre entre les Lobala et les Ignélés, la situation ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. On a beaucoup attendu pour envoyer les policiers qui sont allés mourir, déjà comme ça. Et puis, après, on a prétendu neutraliser tous les Ignélés à partir de Dongo. Je pense que le ministre des Communications et porte-parole du gouvernement l'a dit, qu'ils étaient indépendants, qu'ils étaient à déroute. Il faut connaître la province, partie de Dongo jusqu'à Makanja. C'est très loin. Mais comment ces hommes sont arrivés à s'organiser s'ils étaient en déroute? Comment ils sont allés prendre la localité de Makanja? Comment ils sont arrivés là? Alors qu'au mois de novembre de l'année passée, la MONUC avait déjà annoncé qu'il avait vu des groupes d'hommes armés qui se dirigeaient vers Buguru, vers Bomongo. Est-ce qu'on avait pris en compte cette information?
Christian Aloula, oui? Vous qui êtes sur le terrain, comment analysez-vous ces phénomènes? Comment pouvez-vous expliquer ces phénomènes?
Mais c'est un peu difficile à expliquer parce que moi je trouve ça drôle. On a dit comment ils ont bombardé vers Buguru, comment c'est la force loyale s'est attaquée à tout ce monde-là, et puis ils sont partis. Mais il y avait des gens, des informations qui disaient qu'ils avaient des armes et qui se dirigeaient vers Bomongo. Ils sont arrivés à Bomongo comment? Parce qu'ils sont partis par la rivière Ubangi. C'était très long trajet avant d'atteindre le fleuve Congo. Ils sont arrivés là. Comment ils sont arrivés à prendre Makanja? Ils sont au nombre de combien? Ils utilisent quel type d'armes? Donc c'est ce qui manque à notre armée. Vraiment, c'est la technicité, moi je dirais. Moi je pense qu'aujourd'hui, si on laisse des choses comme ça, c'est la province de l'Équateur d'abord qui sera divisée, il y aura des barrières, et nous on évite essentiellement des trafics fluviales, et les quelques avions qui nous arrivent de Kinshasa vont avoir peur de venir vers nous. Moi je pense qu'il est temps, plus que jamais aujourd'hui, pour que le gouvernement essaye de prendre des dispositions utiles pour le redressement de la situation. Bon, moi, je pense que l'analyse que je suis en train de faire, pour répondre à votre question, c'est qu'on essaie de minimiser. Hein? On ne minimise jamais une situation. On prend des dispositions à temps et on fait ce qu'on puisse faire. Mais quand on est en train de sous-estimer un adversaire, on sera surpris un jour.
Marcel Ngoyi, que faire finalement pour ramener la paix dans cette partie du pays?
Mais il faut mettre les troupes en mouvement. L'armée est une armée nationale. C'est une armée qui a été dont on a toujours parlé des dispositions qui pouvaient être prises depuis la transition M+4. Une armée nationale, républicaine, réintégrée, restructurée. C'est ça qu'on voulait. Et il y a eu même à l'époque de plaintes ici qu'on versait à peu près 8 millions de dollars pour que cette armée puisse avoir sa vraie dimension, qu'elle puisse avoir ses vraies marques. Aujourd'hui, nous avons une situation devant nous, il faut mettre les troupes en mouvement. C'est le moment pour le gouvernement, c'est le moment pour les FARDC de laver la front, d'aller démontrer la puissance sur ces Ignélés qui, d'une manière ou d'une autre, viennent désorienter les objectifs que poursuit le gouvernement. Vous savez que aujourd'hui, dans le cadre des efforts qui sont en train d'être fournis, à la fois du point de vue financier et économique, parce qu'on veut maîtriser le cadre macroéconomique et atteindre le point d'achèvement, on n'a pas besoin de troubles, on n'a pas besoin de l'insécurité, parce qu'à ce moment-là, ça désoriente les esprits, ça trouble. Alors, il faut que l'armée aille. Il faut que l'armée démontre de quoi elle est capable.
Oui, Albert Comba et Marcel Ngoyi insistent sur l'approche militaire. Et à votre avis, l'approche politique ne peut pas être exploitée pour essayer de ramener la paix dans cette partie du pays?
C'est un schéma aussi qu'on ne peut pas négliger, parce que l'approche politique, il faut d'abord connaître qui sont les Ignélés, ils veulent quoi, qui sont derrière eux. C'est ça l'élément important. Vous allez combattre des gens que vous ne connaissez pas, qui tirent les ficelles, ils sont des mais ils sont bien armés, ils se déplacent sérieusement comme une équipe de vrais combattants. Donc, il y a une organisation, il y a une main noire qui est derrière tout ça. Alors, c'est le gouvernement qui devait tout faire, ce que j'ai parlé du renseignement, pour savoir qui est derrière. Il devait aussi mettre en compétition tous les politiciens de l'Équateur,
pour leur dire, voilà, c'est votre province qui est à feu. Essayez de faire comprendre à qui ce soit, sans dire qui ce soit, qu'il est des grands. Il est pour, il y a un intérêt pour tout le monde que l'Équateur soit en paix. Et quand tout le monde a saisi la parole, chacun va aller dans son fief pour expliquer à la population de ne pas s'ingérer dans ces histoires d'ingérer. Et vous verrez, on va essayer de diminuer un peu ces titres.
Oui, très bien, Manoula, que faut-il faire finalement pour ramener la paix dans cette province de l'Équateur?
Oui, bon, moi, je navigue à contre-courant, à contre-été que vient de dire mon collègue tout à l'heure. Je ne pense pas que la diplomatie soit si difficile pour qu'on sache quelle mémoire qui est derrière. Quand il y a des réactions de ce genre, où on n'arrive pas vraiment à maîtriser la situation, il ne faut pas qu'on attende qu'un mandat attende pour commencer à négocier. Je pense que le temps est encore là. Hein, ceux qui ont commencé ces troubles à partir de Dongo sont connus. S'il n'y a pas moyen d'utiliser cette approche de dialogue, de la diplomatie, hein, je pense que c'est aussi mieux. Hein, qu'on essaie d'approcher l'ennemi, qu'on attende, qu'on écoute qu'est-ce qu'il veut. Il est plus tard, il n'est pas tard aujourd'hui que nous nous mettions autour d'une table pour essayer de parler en paix, pour essayer de pacifier ce qui ne va pas, parce qu'on en a marre avec deux guerres. Mais quelque part, quand même, il se trouve qu'il y a ses droits qui sont lésés et qu'il a essayé de faire attendre sa voix d'une manière ou d'une autre, il n'a pas été écouté, et qu'il prenne les armes pour essayer de se faire attendre. Mais c'est mieux aussi de l'approcher, et c'est pas toujours le considérer comme un rebelle, et puis le minimiser et le prendre pour un petit monsieur qui ne fera rien. Même, je m'imagine le nombre de personnes qui sont mortes. Je m'imagine le nombre de biens que les Congolais ont déjà perdus. Je m'imagine le nombre de migrations qui se sont opérées. Il y a des enfants des Congos qui meurent en dehors, à l'étranger, par manque de soins appropriés. Et compte tenu de toutes ces situations, moi j'appelle le gouvernement congolais hein, à utiliser cette approche-là pour essayer de négocier un peu avec ces gens pour qu'il ne soit pas trop tard, comme cela a été le cas avec les autres à l'est du pays.
Merci, nous passons à notre dernier thème ce soir. Révision du fichier électoral, annonce du calendrier de la poursuite des opérations dans certaines provinces. Selon la CI, ces opérations concernent tous les électeurs, même ceux qui détiennent encore leurs anciennes cartes d'électeur. La révision du fichier électoral reprend le 19 mai prochain dans les provinces du Katanga, Maniema, Bakongo et du Kasaï occidental. L'annonce a été faite jeudi 25 février dernier à Kinshasa par le président intérimaire de la commission électorale indépendante, M. Crispin Kankondé. Tous les électeurs des provinces précitées devront s'enregistrer de nouveau, y compris ceux qui détiennent les anciennes cartes d'électeurs. Les détails avec Axel Gontro.
Les nouvelles cartes d'électeurs identifient les votants et leur indiquent les bureaux de vote pour les prochains scrutins, selon le rapporteur de la CEI. Dieudonné Mirimo précise que tous les électeurs doivent se faire enregistrer pour participer à ces scrutins. La CEI prévoit de rentrer à Kinshasa pour recommencer l'opération à indiquer la même source. Même les personnes qui ont récemment reçu les nouvelles cartes devront s'enrôler de nouveau. La CEI dispose des moyens financiers pour le démarrage de la révision du fichier électoral, selon le rapporteur de cette institution. Toutefois, l'aboutissement de la révision du fichier électoral dépendra de la mobilisation des fonds qu'effectue le partenaire de la CEI, souligne Dieudonné Mirimo. L'opération de révision du fichier électoral se fera au même moment que celle de la vente des cartes d'identité. Cette dernière opération sera exécutée par la CEI sous la direction du ministère de l'Intérieur, a souligné Dieudonné Mirimo. Les fonds provenant de la vente des cartes d'identité devront servir à financer en partie la révision du fichier électoral. Pour ce qui est des ressources humaines, le rapporteur de la CEI se veut rassurant. Les informaticiens ont reçu une formation appropriée. Un autre recyclage est prévu juste avant le démarrage de l'opération le 19 mai, déclare Dieudonné Mirimo. Ceci devrait permettre d'éviter des longues files observées devant les bureaux d'inscription à l'étape de Kinshasa. Par ailleurs, le rapporteur de la CEI affirme que les arriérés de salaire des agents de la CEI ont commencé à être payés. D'ici le début de la révision du fichier électoral, ils auront perçu tout leur salaire, ce qui leur assure quant à la motivation de ces agents.
Marcel Ngoyi, je rappelle que vous êtes éditeur du quotidien La Prospérité, c'est un journal qui paraît ici à Kinshasa. Et avez-vous été surpris par l'annonce de la CEI?
Oui, très surpris. Pourquoi pas? J'ai été surpris parce que ça fait un bon bout de temps que M. Labbé Maluma est devenu à fond. On ne sait pas où est-ce qu'il est et qu'est-ce qu'il fait. Très surpris parce que la CEI elle-même est minée par des contradictions. Il y a Mme Rose Mika qui est pratiquement numéro 2 aujourd'hui, après parce qu'il avait Norbert Basengezi qui venait en deuxième position mais qui est aujourd'hui ministre. Donc celle qui était pratiquement la tenancière de l'autre, elle, au niveau du bureau, c'est-à-dire que quelque part, il y a des contradictions au niveau du bureau de la CEI. C'est une CEI qui est au bord de l'éclatement, qui, en un jour, surprend l'opinion avec l'annonce, la révision du fichier électoral. Au lieu de se limiter là, c'est cette CEI qui, aujourd'hui, présente un visage pâle, parce que c'est une CEI qui est à la fin de son mandat. Nous attendons la naissance de la Commission nationale électorale indépendante, la CENI, alors que la CEI, qui est en train de mourir, est en train de se précipiter à organiser des opérations. Moi, j'ai été très surpris d'apprendre qu'on doit dédoubler les frais au motif qu'on doit remplir quelques formalités, quelques dispositions administratives ou quelques formalités. Je pense que le problème de fond est ailleurs. Et non plutôt des problèmes dans la forme, de la carte.
C'est quoi le problème de fond?
Le problème de fond, c'est que pourquoi on n'a pas organisé les élections? Il était prévu qu'on organise les élections locales, municipales et urbaines, pendant cette législature ici, pour que la petite territorialité, qui est constitué de bourgmestres, de maires, de villes, soit une territoriale diversifiée, plurielle. Mais on a maintenu la petite autorité territoriale répondant à une seule obédience pour des raisons injustifiées. Et aujourd'hui, on va aller l'année prochaine, non pas directement seulement aux élections locales. L'année prochaine, vous allez voir qu'on va reprendre de nouveau le même cycle. C'est-à-dire, ça sera les élections par le haut. On va organiser les élections présidentielles, législatives et consorts, et les élections locales risquent toujours d'être postposées. Pourquoi j'ai dit ça? J'ai dit cela parce que les opérations même de révision du fichier électoral, parce qu'on va reprendre jusqu'à Kinshasa ici, on va reprendre les opérations, on risque d'atteindre le mois de mai 2011.
Donc on reprend à zéro.
On reprend à zéro jusqu'à mai 2011, on sera dans les opérations de révision et les élections. C'est ce que nous avions dit au début, que si jamais la MONUC arriver à se retirer avant qu'on ait fini ces opérations électorales, nous allons le faire, mais dans des conditions d'inquiétude.
Merci. Albert Romba, je rappelle que vous êtes journaliste à la radio Tropicana FM, c'est une radio qui émet depuis Kinshasa, et tous les électeurs sont concernés par ces opérations. Et cela ne peut-il pas avoir une incidence sur le processus électoral en cours?
Il y a une incidence grave, parce que au moment où on a publié les calendriers, il n'y a aucune opération qui est faite. Et cette opération de révision des fichiers qu'on a commencé à Kinshasa, qui vient d'être reprise encore dans les quatre provinces, y compris cinq provinces Kinshasa, il n'y a pas une assurance quelconque sur les fonds qui vont être utilisés. Parce qu'il y a deux parties de fonds. Le premier fonds, c'est le partenaire, le bailleur des fonds. Ça, c'est pour l'organisation matérielle. Mais il y a des fonds que le gouvernement devait allouer à la CEI pour la sensibilisation. Si l'opération de révision des fichiers dans la ville de Kinshasa n'a pas eu assez d'écho, c'est parce qu'il y avait une mauvaise sensibilisation. Or, il est prévu dans le calendrier le 19 avril déjà, un mois de sensibilisation avant le début de ces opérations. Ça, c'est le premier problème. Est-ce que le gouvernement est-il capable? Parce que, d'après l'attendement qu'on a eu, c'est que le gouvernement attend qu'il y ait d'abord des retombées au niveau de la vente des cartes d'identité pour financer la révision. Ce qui posera aussi un problème. Mais il y a aussi des contestations au niveau de la légitimité entre la CENI et la CEI qui doit organiser cette opération. Et puis, il y a aussi une contestation au niveau des partis politiques qui disent que non, la CEI actuelle n'est pas compétente pour organiser ce genre d'élections.
Christin Maloula, je rappelle que vous êtes directeur coordonnateur des canaux Congo Télévision et Radio Liberté à Bumba, à l'Équateur. Et quelle est votre analyse par rapport à cette annonce de la CEI?
C'est une surprise vraiment fatale pour moi, d'autant plus que le gouvernement congolais n'a pas été à mesure d'organiser des élections de la petite territoriale. Et je pense que cela se justifierait par le manque de moyens financiers. Aujourd'hui, on veut reprendre l'enrôlement à tous les niveaux et à partir de toutes les provinces. Je pense qu'ils ont assez de moyens, ils ont suffisamment d'argent pour le faire. Et le problème n'est pas seulement à ce niveau-là. Vous voyez, il y a des provinces qu'on a déjà citées. On a cité le Bas-Congo, on est parti du Kasaï, on arrive au Katanga, on saute à l'est, on va à Goma. La province de l'Équateur n'a jamais été citée, s'il vous plaît. Et c'est la province, c'est la dernière toujours. Vous verrez que c'est la dernière province où on va passer par l'enrôlement, la province de l'Équateur. Et vous verrez que le transport de matériel sera toujours difficile. Vous remarquerez qu'il y aura des coins où l'enrôlement ne se fera pas. Et tout simplement pour défavoriser certaines provinces. Donc, une administration à double vitesse, favorable pour certaines provinces, défavorable pour les autres.
Merci. En le faisant,
je pense qu'il aura fallu que tous les moyens soient mis en œuvre. Et qu'on essaie de donner les chances à toutes les provinces. L'opération, en fait, n'est pas mauvaise, mais elle doit être faite d'une façon équitable pour tous citoyens dans toutes les provinces du pays.
Merci, nous avons compris.
Il n'y a pas question que les gens de Katanga sont enrôlés en égalité, et puis à l'Équateur, on va précipitamment pour ne pas donner la chance aux gens de s'enrôler.
Merci.
Et puis c'est là où nous débutons encore une autre forme de tricherie. On a toujours commencé un peu plus haut et pour se faire voir au grand jour.
Merci, c'est la fin de cette émission. Jean-Claude Nsiala a été à la technique, Samuel Kachak à la réalisation, sous la supervision des Martin Seboujangwe et devant ses micros, Guy Maté. Merci et bon week-end sur Radio Okapi. Okapi.